Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, tous les 15 jours, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Alice Roux. Fondatrice de la marque de cosmétiques biologiques Denevo, elle a créé, en parallèle de cette première activité, la marque Alixan, spécialisée dans la maroquinerie végane artisanale. Le parcours d'Alice méritait largement que je lui consacre deux épisodes. Vous retrouverez donc dans ce premier épisode toute l'histoire de Denevo, à savoir comment Alice a quitté son emploi chez le géant L'Oréal pour se lancer à son compte il y a 5 ans et créer une marque de cosmétiques naturelle, innovante et moderne. Tandis que l'épisode suivant sera entièrement consacré à l'histoire d'Alixan, le nouveau projet d'Alice qui a vu le jour l'année dernière, à la fois en Roumanie et en France. Entrepreneuse et mère de deux enfants, Alice nous raconte son histoire, des origines roumaines de sa mère à son enfance en Afrique. Un épisode passionnant qui non seulement vous fera voyager, mais vous fera surtout découvrir le portrait d'une femme talentueuse. Bonne écoute à tous! Bonjour Alice!
Bonjour alors.
Bienvenue dans Basilic. Après quelques rendez-vous décalés, on arrive enfin à se rencontrer. Donc toi, tu es à l'origine en fait de deux marques différentes, mais qui finalement, on va en parler, se retrouvent sur certains points. Donc premièrement, tu as créé, j'ai vu que tu avais commencé à travailler sur le projet de Denevo en 2010. Même si ça a vu le jour un petit peu après, mais voilà, tu as commencé à réfléchir là-dessus. Et cette année, tu as créé Alixan, qui est une marque de maroquinerie végane. Donc, c'est-à-dire pour laquelle tu n'utilises aucune matière animale, donc pas de cuir, pas de fourrure, etc. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter un peu ce qui t'a mené à fabriquer et à avoir envie de concevoir une marque de cosmétiques. Et puis après, on reviendra sur tes projets actuels avec Alixan et tout ça.
Alors, concernant Denevo, donc pour les produits de beauté, c'était un projet que j'ai mûri très, très longtemps. Donc moi, j'ai toujours travaillé initialement dans l'univers des cosmétiques. J'ai fait donc tous mes stages et mes premiers boulots, mais aussi tous les suivants. Finalement, je n'ai fait que ça, donc dans l'univers des cosmétiques. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, c'était il y a un peu plus de 10 ans, c'était beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, en tout cas pour tout ce qui concerne le bio ou même les produits naturels, tout simplement. Et c'est donc une idée qui a commencé à faire son chemin petit à petit. Voilà, je me suis dit qu'il y avait, vraiment une demande, il n'y avait pas assez d'offres sur le marché. Et c'est vrai que j'ai quand même pris le temps d'apprendre le métier, de découvrir le marché, les intervenants. Ça a duré 7 ans quand même, avant que j'estime que tout soit au point et que je me décide à me lancer pour de bon dans cet univers. Donc voilà, un projet qui a mis beaucoup de temps à mûrir et que j'ai développé, alors j'ai envie de dire au feeling, même si ce n'est pas le terme exact, puisqu'il y a eu beaucoup de préparation en amont. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les premières formules, par exemple sur Denevo, c'est vraiment des produits que j'ai envie de concevoir parce que moi, j'avais vraiment une forte conviction que c'était des produits qui manquaient. Je pense notamment à un produit qui, d'ailleurs ça s'est vérifié puisqu'aujourd'hui c'est vraiment la meilleure vente sur la marque, qui est la crème lactée, qui est un hydratant pour les cheveux. Voilà, c'est un produit qui est somme toute basique, mais appliqué aux capillaires, c'est un peu un ovni en fin de compte, parce qu'un hydratant pour les cheveux, voilà, ça se faisait vraiment pas à l'époque. Et c'est vrai que ça a tout de suite plu, de par les compositions, des produits qui étaient en fait l'équivalent de la cosmétique conventionnelle, mais avec des compositions très propres, avec beaucoup de composés naturels. Voilà, une belle formule et un produit qui fonctionne vraiment bien sur tout type de cheveux. Donc voilà, c'était un peu l'ovni qui est devenu vraiment le produit qui a permis de faire connaître la marque et de lancer tout ça. Et c'est vrai que la gamme de départ, c'était que des produits comme ça. Voilà, des produits... en lesquelles je croyais vraiment et qui pour moi avaient toute leur utilité en fin de compte sur le marché. Et donc ça s'est vérifié par la suite et bon, entre-temps la gamme s'est bien étoffée avec des soins visage et voilà, beaucoup d'autres produits, mais c'est vrai que c'était un projet de très longue date que j'ai beaucoup mûri. J'ai découvert un univers totalement différent côté production, côté réglementation qui est très très lourde sur les cosmétiques en Europe et puis en France. Donc voilà, donc des nouveaux, c'est un parcours de longue haleine, mais qui aujourd'hui fonctionne très très bien et qui a fêté sa cinquième année il n'y a pas très longtemps.
Ça c'est super. Et quand tu dis que pendant 7 ans, tu as réfléchi, tu travaillais en laboratoire, tu travaillais où ?
En fait, j'étais un peu à l'interface, j'étais pas en laboratoire exactement parce D'accord. qu'initialement, je n'ai pas une formation en formulation. Voilà, moi, j'ai eu un parcours assez atypique puisque j'ai touché à la formulation, mais sans aller vers un parcours diplômant. Je me suis orientée plutôt vers une école de commerce classique. C'est dans ce cadre-là que j'ai pu intégrer en fait de très jolies boîtes, notamment le leader mondial L'Oréal, mais aussi en hygiène bucco-dentaire Colgate-Palmolive et aussi Johnson & Johnson. Voilà, qui étaient des entreprises où j'ai eu l'opportunité d'apprendre en fait toutes les facettes du métier, sauf celui d'entrepreneur forcément, puisque c'était pas le but. Mais c'est vrai que j'étais à l'interface en fait, j'ai fait du développement des ventes, donc c'est côté plutôt commercial, alors pas du tout sur le terrain, mais ça reste du commercial. J'ai fait beaucoup de marketing aussi sur les produits, et là ça se rapprochait un peu plus de ce que j'allais faire par la suite, donc tout ce qui concernait le développement de packaging, mais aussi le suivi des formules en développement. Donc voilà, mais tout compte fait, je n'ai pas vraiment été pendant tout ce parcours-là en entreprise, en contact direct avec le développement, ce que j'ai été amenée à faire après, mettre vraiment au point des formules en partant de zéro finalement. Donc j'ai été toujours à l'interface, mais plus côté commercial marketing que formulation.
D'accord. Mais c'est quand même au final toute cette expérience qui t'a permis de te lancer et d'avoir le courage d'y aller.
Oui, tout à fait. C'était de très bonnes écoles. Alors, même si au fil du temps, moi, mon projet, il a mûri et je me sentais beaucoup moins proche forcément des produits. Après, moi, j'ai toujours eu, ça reste des énormes entreprises. Voilà, avec toute l'idée qu'on peut en avoir finalement de pression, de process en fait interminables. Personnellement, j'ai eu de très, très bonnes expériences dans ces entreprises. Ça reste de très belles entreprises que j'admire encore aujourd'hui pour leur parcours, pour toutes les innovations qu'elles ont emmenées sur le marché. Et c'est, voilà, si je n'avais pas eu ce parcours-là en entreprise cosmétique, je n'aurais probablement jamais créé ma marque de cosmétique, ça c'est sûr.
Et qu'est-ce qui t'a rapproché du naturel, du bio, des compos clean et tout ça? Parce qu'en travaillant pour des gros leaders mondiaux comme ceux que tu as cités, c'est vrai qu'on s'éloigne quand même de la nature et du bio.
Alors, c'est vrai que dans toutes les expériences que j'ai eues en entreprise, on ne peut pas dire que les produits matchaient avec mes convictions personnelles. Il y a eu deux phases. Donc, la première phase, c'est que j'étais déjà très sensible à l'univers du naturel et du bio de façon personnelle. Ça m'a été transmis par ma mère, qui était très, très... alors, sans aller non plus vers une médication, de façon autodidacte, j'ai envie de dire, mais qui est très, très sensible. Voilà, moi, j'ai toujours grandi dans un univers où il y avait des onguents à base de plantes, des produits pour les petits bobos qui sont quasiment des recettes de grand-mère. Donc, des huiles essentielles, des eaux florales. Ouais. Voilà, c'est un univers que j'ai toujours connu, en fait. Donc, ça faisait partie de mon enfance et puis un peu plus tard de mon adolescence et puis de ma vie d'adulte. Après, moi, au-delà de tout ça, il y avait quand même par-dessus l'amour des produits de beauté. Pas forcément le maquillage, mais vraiment le soin. Après, c'est vrai que de façon terre à terre, on va dire, un produit, ça reste un produit. C'est vrai que ce qu'on y met, ça change tout et ça le fait basculer en conventionnel ou en naturel, voire en bio. Mais un produit, ça reste un produit. Et moi, j'avais vraiment envie de découvrir donc le parcours d'un produit, comment il arrive à partir d'une idée et devenir un produit fini finalement, comment on arrive à créer une marque tout simplement, à communiquer avec ses consommateurs, à diffuser un produit dans un réseau de distribution. Donc ce côté très rationnel finalement, j'avais envie de le découvrir et je n'ai pas eu l'opportunité tout simplement de le découvrir dans une entreprise qui soit orientée cosmétique naturelle ou bio, sachant qu'à l'époque, en dehors des pionniers du bio, et j'étais pas non plus très sensible à ce type de produit, à ses roots finalement. Voilà, donc j'ai préféré prendre l'expérience entreprise, même si elle m'éloignait un peu des produits, et apprendre voilà tout ce qui menait vers ça, pour ensuite développer moi mon projet qui pour le coup matchait totalement avec les produits naturels par la suite.
Et avec tes attentes forcément.
Exactement.
Et d'où vient le nom Denovo?
Alors Denovo, c'est d'où vient ce nom? Bon, il y a deux explications en fait. La première, c'est qu'en fait moi quand je suis arrivée donc avec Denovo, donc là on était en 2010 au tout début de la marque, même si les produits n'existaient pas encore finalement, ils sont venus 2 ans plus tard. Donc en 2010, c'est vrai que j'arrivais dans un univers très concurrentiel. C'est tout simple. Moi, quand j'expliquais mon projet, tout le monde me disait « Ah bon, mais bon, des cosmétiques, très bien, il y en a déjà. Des produits bio, il y en a de plus en plus, même s'il y en avait beaucoup moins que maintenant. Des produits naturels, il y a déjà ce qu'il faut. » Donc voilà, il y avait ce côté. Moi, j'arrive en fait sans nom finalement. De façon personnelle, j'étais pas quelqu'un de connu ni dans le milieu ni de façon publique ou quoi que ce soit. Donc je suis arrivée avec une marque finalement qui est apparue de façon spontanée au milieu de grands mastodontes et c'est vrai que Denovo côté biologie en fait, c'est un phénomène qui apparaît de façon totalement spontanée, inattendue et qu'on ne peut pas expliquer. Bon, pour le coup, quand j'ai commencé, je ne savais pas que ça allait être un succès. Ça l'a été par la suite, donc c'est très bien. Mais voilà, il y avait ce côté, j'éclos de nulle part. J'ai pas une grosse machine derrière. Mais je crois qu'en proposant des produits finalement qui rencontrent leur clientèle et qui plaît par la composition, par des textures, des parfums sympas, ça allait être une belle histoire. Et finalement, ça a été le cas.
C'était prémonitoire.
En quelque sorte. À l'époque, je n'aurais pas juré là-dessus, mais oui, c'est ça.
Et tu t'es lancée donc toute seule ?
Tout à fait, toute seule.
Tu as quitté ton boulot et tu t'es lancée. Enfin, j'imagine que tu as travaillé sur ton projet en étant salariée, comme beaucoup le font, ou en tout cas pour réfléchir à tes idées et tout ça, bien sûr.
Tout à fait. Donc moi, j'ai quitté mon dernier boulot effectivement en 2010. C'était le moment où j'avais décidé de me lancer. En fin de compte, je n'ai pas vraiment commencé à travailler sur le projet quand j'étais encore en poste. En fait, j'avais pas vraiment le temps ni l'énergie. En réalité, ça me prenait beaucoup. Enfin, voilà, moi, j'étais vraiment passionnée finalement par ce dernier poste et j'avais une équipe vraiment très très sympa où ça se passait très bien. J'avais tout simplement pas la tête à me... Voilà, même si j'avais ce projet en tête, j'avais pas les moyens de travailler dessus. Donc j'ai d'abord quitté mon entreprise, ça a coïncidé avec la naissance de ma fille en fait, et j'ai donc commencé à travailler sur Denovo en 2010, voilà, j'étais partie de mon entreprise et j'ai travaillé dessus à plein temps finalement, et la première étape ça a été évidemment de trouver un laboratoire qui veuille bien donc me développer mes formules, donc voilà, qui sont nées 2 ans plus tard.
Et te faire confiance, parce qu'au début, quand on lance une marque, on commande des plus petites quantités.
Exactement.
Et c'est toujours les problèmes auxquels on peut être confronté. Et pour justement les matières premières, c'est toi qui as pris en charge tout ce pan de ton métier, ou est-ce que c'est le laboratoire plutôt ?
En fin de compte, sur Denovo, le laboratoire avec qui je travaille ne fait que fabriquer le produit fini.
D'accord.
En fin de compte, donc, évidemment, c'est un laboratoire qui propose comme beaucoup d'autres sous-traitants de ce type, en fait, plusieurs formules. Donc, ça part du produit déjà tout fait, finalement, qu'on peut revendre avec des revendications, à l'approvisionnement des matières, puis la fabrication. En ce qui me concerne, moi, je ne souhaitais leur confier uniquement que la fabrication du produit. En fait, pour avoir été dans le milieu, je sais que le monde des ingrédients, il est très vaste et divers, et il y a beaucoup d'entourloupes, j'ai envie de dire. Donc, on ne sait jamais vraiment. Il faut savoir que quand un laboratoire fabrique des produits donc à la demande pour une marque, la formule reste la sienne, donc elle est confidentielle forcément, donc on ne peut pas avoir le nom d'un fournisseur d'un ingrédient, on ne peut pas, voilà, la seule solution c'est de l'approvisionner soi-même. Donc c'était la solution que je souhaitais, parce que étant donné que j'avais mis au point les formules, je voulais savoir exactement quels ingrédients allaient dedans. Donc des ingrédients que j'avais testés donc, en faisant les essais de formulation. Donc je disais en fait que j'approvisionnais toutes les matières premières en direct, voilà, pour pouvoir garder entièrement toute la chaîne de fabrication, donc depuis la conception jusqu'au produit fini. Et en fin de compte, donc ça concerne les matières premières, ça concerne aussi les éléments de conditionnement, donc les packaging. Et finalement, le laboratoire donc avec qui je travaille ne prend en charge que la partie fabrication même, conditionnement pour le coup, donc mise en flacon, et voilà, ça s'arrête là en fait.
Oui, donc pour toi, ça te permet d'avoir une réelle transparence et d'être complètement honnête avec tes clients et tes clientes en leur disant « c'est bien ces produits-là qui entrent dans la composition, il n'y a pas de doute ».
Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que, moi c'était déjà le cas à l'époque en fait où Des Nouveaux a commencé, les clientes en fait qui venaient à la marque en fait étaient des clientes très éclairées, forcément plus on met de promesses dans un produit, plus les gens demandent, en demandent pour leur argent finalement, bien ce sûr. Qui est très bien, et effectivement donc les gens ont toujours voulu savoir, et encore plus aujourd'hui avec tous les scandales qu'on a eus, voilà, pas que dans les cosmétiques, aussi dans l'alimentaire, dans tous les secteurs, finalement, les gens sont très, très demandeurs de transparence, ce qui est tout à fait normal, encore une fois, mais surtout de tous les petits détails, en fait, qui amènent jusqu'au produit. Étant donné que pour eux aujourd'hui un produit fini, aussi efficace soit-il, aussi bien présenté soit-il, ça ne suffit plus. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai cette grande caution de pouvoir retracer toute la chaîne de fabrication, de pouvoir dire exactement d'où vient un ingrédient, comment il est obtenu, par quel processus industriel, chimique, voilà, il est obtenu, et savoir aussi tout ce qui a été fait sur le produit, notamment en ce qui concerne la réglementation sur les tests sur les animaux. Et ça, en fin de compte, quand on a tous les données de fabrication du produit dans un dossier, on ne peut pas y échapper. On sait quand un produit a été testé ou pas. On sait quand un ingrédient, une fois rejeté dans la nature, est nuisible pour les environnements aquatiques notamment. On sait tout ça, donc on a toutes ces données. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ça me permet d'affirmer beaucoup de choses sur les produits, parce que tout simplement, j'ai ces données-là et je sais exactement de quoi je parle.
Oui, bien sûr. Et quand tu as eu tes premiers produits, donc au bout de 2 ans, on l'a dit, tu t'es lancée dans la commercialisation, j'imagine, via les réseaux sociaux, un site internet. C'était toi qui étais à l'œuvre derrière tout ça? Tu étais toujours toute seule à ce moment-là, ou est-ce que tu t'es entourée?
Eh ben, en fin de compte, sur De Nouveaux, donc qui a 5 ans aujourd'hui, j'ai été toute seule les 3 premières années. Ce n'est que depuis 2 ans que je travaille donc avec Sabrina, qui m'accompagne et qui est une vraie perle d'ailleurs, sur tous les projets. Sabrina, c'est vraiment mon alter ego aujourd'hui, on mène tous les projets ensemble. La seule partie en fait que je garde exclusivement, mais c'est parce que c'est une partie qui est un peu plus technique, c'est la partie développement produit, voilà, que je fais toujours, donc tout le suivi avec le labo. Donc ça, je m'en occupe vraiment toute seule. Pour tous les autres projets, on est 2. Mais au tout départ, pour en revenir à la question, oui, je faisais tout toute seule. Donc ça a été donc la création du site internet avec son contenu. Ce qui a été très prenant, c'était de construire le blog De Nouveaux. qui est très très riche en ressources, mais côté formulation, voilà, avec une approche très très transparente finalement pour les clientes ou quelqu'un qui recherche juste des informations sur le domaine. Donc c'est vrai que ça, c'était très prenant. À l'époque, les réseaux sociaux avaient un peu moins d'importance. C'est bête, mais en 5 ans, les choses ont encore une fois beaucoup changé. Donc effectivement, les réseaux sociaux à l'époque, c'était essentiellement la plateforme Facebook, Instagram. Bon, on ne peut pas vraiment en parler à 5 ans en arrière en ce qui concerne la marque, mais c'est vrai que ça a permis beaucoup d'échanges en direct. Ça a permis d'être un vrai accélérateur, j'ai envie de dire, pour les contenus du blog. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Mais ce qui a vraiment, vraiment lancé la marque, c'est une petite dizaine de blogueuses qui étaient passionnées de ce domaine-là, donc la cosmétique naturelle, qui se sont emparer en fait de la marque, c'est vraiment le mot, parce que ça, je ne l'avais vraiment pas anticipé ni même souhaité finalement. Et même si voilà, j'en ai été très contente, qui se sont emparés de la marque, hein, qui en ont vraiment parlé en l'annonçant comme des, tout simplement des produits naturels qui ont l'efficacité de cosmétiques conventionnels avec tout le côté sensoriel. Et c'est vrai que ça, à l'époque, voilà, 5 ans en arrière, c'était même s'il y avait beaucoup d'offres. Voilà, ça faisait tilt et c'est ce qui a vraiment, vraiment permis de lancer la marque. C'est vraiment ces blogs-là qui me suivent toujours aujourd'hui d'ailleurs et qui sont très fidèles à la marque et avec qui voilà, ça c'est devenu vraiment des relations de confiance, voire d'amitié. Donc c'était vraiment ça le starter, j'ai envie de dire, pour des nouveaux.
Donc tout ça en étant jeune maman.
Tout à fait. Pour l'anecdote, en fait, les premiers colis des nouveaux, puisque ça a toujours été du web, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était donc des expéditions. Les premiers colis des nouveaux, je les ai envoyés le lendemain de ma sortie de maternité. Donc je venais, pour le coup, ça a mis un peu de temps. Donc, contre-temps, j'ai eu mon fils. Puisque j'ai initié le projet, en fait, j'attendais ma fille. Et puis, quelques temps après, j'ai eu mon fils. Et quand j'ai eu mon fils, en fait, j'ai ouvert le site la veille de mon accouchement. Je ne pouvais pas le savoir. J'étais en pleine forme, donc ça va. Mais j'ai ouvert le site. Et c'est vrai que 2 jours après, je sortais de la maternité. J'expédiais mes premiers colis. Mais avec, voilà, c'était un deuxième bébé. Je n'ai pas eu des jumeaux, mais presque.
Et est-ce que tu t'es inspirée, tu l'as dit, tu t'es un peu inspirée de ce que ta mère t'avait enseigné, des traditions. Est-ce que vous, dans votre famille, vous avez justement ces traditions entre grand-mère, mère et fille, voilà, ou des petites astuces beauté naturelles qui se transmettent?
Alors moi, j'ai eu une enfance et donc forcément une culture par la suite qui est très hétéroclite. Étant donné que donc ma mère qui est d'origine roumaine, donc Europe de l'Est effectivement, où c'est très très développé en fait côté aromathérapie, mais au-delà tout ce qui est justement recettes de grand-mère, ça fait vraiment partie de la culture populaire, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que j'ai toujours en fait moi, s'il y avait un produit en tout cas qui m'a été transmis par ma mère et qu'aujourd'hui j'utilise encore indéfiniment, c'est un baume au calendula qui est absolument souverain pour tout ce qui est petit bobo, voilà, encore plus maintenant que j'ai des enfants, qui est petit bobo en massage aussi, voilà, qui est vraiment j'ai envie de dire un remède quasiment magique et que j'ai toujours aujourd'hui dans son petit pot en fait très très rétro, très très grand-mère, mais que je rachète indéfiniment, voilà. Donc ça, c'est pour le côté de ma mère. Parallèlement à ça, donc mon père est d'origine africaine et j'ai moi-même vécu en Afrique une dizaine d'années. Et c'est vrai que là-bas, encore une fois, on a beaucoup, beaucoup de produits issus de la pharmacopée. Je pense au beurre de karité, qui est devenu très connu maintenant, mais qui, voilà, moi, ça a toujours fait partie des produits que j'ai vu fabriquer, en fait, sous mes yeux, voilà, dans la rue ou un peu partout. Donc, tous les produits un peu bruts, des extraits de noix, des huiles végétales. À l'époque, il y avait beaucoup l'huile de palme, beaucoup moins maintenant, puisqu'en fait, voilà, c'est un marché qui a pris un peu trop d'importance et qui est devenu un peu nuisible, on va dire, pour l'environnement. Mais c'est vrai que tous ces produits-là de la pharmacopée africaine font aussi partie de mon environnement, forcément. Moi, j'ai toujours un pot de beurre de karité brut, voilà, que je parfume, bien entendu, parce que je n'aime pas forcément l'odeur du karité brut, mais que j'utilise en massage. Voilà, c'est vraiment des petits produits comme ça qui font tellement partie de l'environnement finalement qu'on les voit quasiment plus et on les utilise comme on utilise le sel en cuisine par exemple.
Bien sûr.
Mais c'est vraiment ça, c'est des produits bruts, très simples, mais que je conserve et qui m'ont été transmis effectivement par mes parents et donc par tous les pays que j'ai pu traverser et vivre étant enfant et puis même un peu plus tard finalement.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Surtout, restez bien connectés afin de découvrir l'histoire incroyable qui se cache derrière la création d'Alixan dans le prochain épisode. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage et à me suivre sur Instagram et Twitter. À très bientôt!
Hi there, Richard Herring here from Rahulastapa. Very pleased to be supporting the Acast Daycast, and not just because it rhymes, because it's an important message. Follow that government advice and stay inside as much as you can. Please stay safe during this weird and confusing and upsetting time. And while you're staying at home, why not listen to even more podcasts? I would love to recommend to you Drunk Women Solving Crime. It's like a party in your house. You're going to enjoy it. And please do stay safe. Thanks for listening. Enjoy your podcasts.